L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Et vous recevez ce matin l'un des signataires du projet d'accord de Bougival.
Oui, notre invité du matin, c'est le député Nicolas Mézenf qui rentre de Paris où il a participé aux négociations de Bougival et qui a signé effectivement le projet d'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Nicolas Mézenf, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout de suite, c'est un accord ou c'est un projet d'accord? Parce que le FLNKS, on le sait, affirme que c'est une étape, que c'est un projet, mais que ce n'est pas un accord définitif.
Non, c'est un accord politique, c'est un accord politique important qui se base sur des équilibres fragiles qu'il ne faut pas toucher, parce que sinon c'est tout l'édifice qui s'effondre et on n'aura plus d'accord. Donc après, dans l'expression on dit projet d'accord parce qu'il n'est pas encore validé par les Calédoniens, et ce sera un accord définitif quand les Calédoniens l'auront approuvé par référendum, mais on ne pose pas une signature sur un document de travail, on ne pose pas une signature sur un pré-accord. Jusqu'ici, tous les documents qu'on avait, on ne les signait pas. Celui-là, on le signe parce que c'est l'accord politique. Donc, il faut que le FLNKS puisse assumer sa signature.
Ça vous inquiète quand même un petit peu, cette réaction de l'UC? Est-ce que vous l'avez vu venir quand vous avez longuement négocié et signé avec, on rappelle, Emmanuel Tchibaou, Roque Mitan, Michael Forest, Omer Anestine, Alozio Sacco? Vous doutiez qu'il y avait un peu de... que ça tanguait un peu?
Non, c'est pas ça, mais on les connaît. C'est-à-dire que l'UC, ça fait quand même un moment qu'ils signent des choses et après, ils en rediscutent. Hein. Moi, je rappelle que, par exemple, sur le dégel du corps électoral qu'on a passé à l'Assemblée nationale, ils avaient signé pour 10 ans glissants. Donc c'est vrai que c'est inquiétant. Après, ce qui est rassurant, je trouve, c'est que l'ensemble des autres groupes politiques assument totalement leur signature. On vient d'entendre l'Unipalika d'ailleurs. Donc il faut faire attention parce que le FLNKS peut aussi se marginaliser quelque part vis-à-vis de nous, vis-à-vis de l'État. Donc je les encourage à assumer la signature. Alors peut-être que c'est un prétexte pour eux pour prendre du temps et puis expliquer la signature à leur base. Si c'est ça, tant mieux. Mais moi, ce que je dis, c'est attention, on s'est engagé dans quelque chose, il faut respecter sa parole.
Vous parliez du Palika. On dit, sans déflorer forcément les choses, sans dire comment tout s'est passé, que pendant les négociations, sa délégation a été plutôt proactive et plutôt constructive pour trouver un accord.
On l'a toujours dit, hein, quelque part, s'il y avait eu que le Palika comme partenaire indépendantiste, l'accord il aurait été trouvé depuis très longtemps déjà. Donc, pour rien vous cacher, oui, l'Unipalika était dans le fait de trouver un accord politique. Après, c'était les indépendantistes qui ont défendu, évidemment, la ligne indépendantiste, mais avec la volonté d'assumer les choses, d'assumer les concessions et d'assumer derrière leur signature.
Alors pour vous, de votre côté, quels sont les points forts de cet accord? Est-ce que c'est vraiment sa pérennité, le fait que la Calédonie est dans la France et qu'il n'y a pas de référendum d'autodétermination pour en sortir?
Moi, je crois que c'est les deux points, effectivement, qui sont fondamentaux dans cet accord politique. Si on doit retenir des choses, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la France et il n'y a plus de référendum sur l'indépendance. Enfin, c'est quand même assez incroyable quand on y pense. Hein. On a toujours vécu avec cette idée qu'il y aurait un jour un référendum sur l'indépendance ou pas. On a voulu nous réimposer ça, d'ailleurs, hein, que ce soit Marine Le Pen ou le président de la République, hein, qu'il fallait faire un nouveau référendum. Et c'est vrai qu'on a été loin, nous, dans les concessions et dans le côté novateur de cet accord, parce que justement, on voulait éviter de reporter sur nos enfants, sur les générations futures, notre propre fardeau, quelque part. Et donc, on a assumé le fait d'aller aux confins de l'autonomie, mais dans la France, sans plus aucun référendum.
Sans période transitoire, c'est effectivement la grande innovation, quoi. Une autre avancée sensible, c'est l'ouverture du corps électoral. Quand on sait d'où on venait, est-ce que c'était compliqué à obtenir? Et qu'est-ce que vous avez obtenu exactement?
Écoutez, c'est quand même pour nous une grande satisfaction de voir que le corps électoral il est réouvert. Alors, ce qui nous a permis d'y arriver, c'est en parlant de nationalité, en fait, hein, qu'on a pu ouvrir ce corps électoral d'abord à 15 ans pour les élections 2026 et ensuite à 10 ans glissants pour les élections 2031 et toutes celles qui vont suivre derrière. Donc, au final, on avait une citoyenneté calédonienne beaucoup plus fermée que la future nationalité calédonienne qui, elle, sera ouverte finalement à tout le monde. Donc ça, je trouve que c'est effectivement une satisfaction de pouvoir donner le droit de vote à ces milliers de Calédoniens qui sont ici depuis des années.
Alors, on retient également en matière d'organisation interne, si on peut utiliser ce terme, le rééquilibrage du Congrès, des compétences accrues aux provinces. C'était des points que voulaient les partisans de la France, c'était un peu votre revendication?
Fondamentaux, parce que pourquoi? Parce que à partir du moment où le Congrès devient l'outil discussion sur un éventuel transfert de compétences régaliennes, le rééquilibrage des sièges en faveur de la province sud plus le dégel du corps électoral était pour nous quelque chose d'important. C'était une demande qui était pour nous fondamentale et qui, en fait, si on ne l'avait pas obtenue, on n'aurait pas signé l'accord politique. Donc aujourd'hui, de voir que les provinces sont renforcées, c'est clairement une satisfaction là aussi pour nous. On y a été de manière très claire, de manière très limpide vis-à-vis des indépendantistes sur ce sujet, et on a obtenu gain de cause.
Les compétences accrues aux provinces, avec notamment la compétence de la fiscalité, comment ça va marcher? Est-ce que ça aussi, ça va être accepté? À une époque, quand on en parlait, on disait que c'était de l'apartheid, que c'était insupportable. Finalement, ça aussi, vous l'avez obtenu?
Oui, on l'a obtenu. On s'est fait attaquer d'apartheid et de partition par nos opposants politiques, mais tout le monde a bien compris que ça n'a jamais été le sujet. L'idée, c'est de pouvoir donner à chaque province sa capacité à apporter ses propres politiques de développement économique. Nous, on sait qu'en province sud, chez les non-indépendantistes, on est plutôt des libéraux, pro-entreprise, pro-business. Dans le nord et dans les îles, on est plus sur une économie dirigée avec des impôts, avec un contrôle de l'administration. Et donc l'idée, c'était que chacun puisse mettre en œuvre sa politique publique qui la concerne. Nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de rendre cette province sud très attractive, de retrouver une province sud qui gagne de l'argent, où tout est possible, de retrouver un peu l'esprit pionnier calédonien qu'on avait dans les années 90.
Même s'il y a un mécanisme de solidarité entre les provinces pour pas abandonner...
Oui, alors il y aura toujours un mécanisme de solidarité entre les provinces, mais qui sera moins développé et moins généreux que celui qu'on connaît aujourd'hui.
Parce que il n'y a plus de clé de péréquation.
Non, parce que celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est quelle que soit la population de la province nord ou de la province des îles, il touche toujours la même part de la richesse créée en Nouvelle-Calédonie. Or, aujourd'hui, ça sera conditionné à la population qui vivra en province nord et en province des îles.
Alors, ça, c'est un peu les avancées qu'ont obtenues les partisans de la France, mais vous avez fait des concessions tout de même. Hein. Un État, une nationalité, un transfert possible des compétences régaliennes, est-ce que tout ça, c'est pas malgré tout un pas vers la souveraineté?
Non, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a plus de pas vers la souveraineté. C'est fini, on est dans un accord, et c'est dit dans le document, qui est pérenne. En fait, on n'est pas dans une phase transitoire, vous l'avez rappelé, on n'est pas dans une étape vers quelque chose. C'est fini, c'est notre statut, c'est celui-là. On doit s'en satisfaire. Et donc forcément, on a dû faire, pour obtenir ce statut pérenne, des concessions notamment sur des concepts. L'État, alors l'État, moi, c'est pas un mot, ça m'a jamais dérangé le mot État, pour rien vous cacher, parce que moi, je suis plutôt un fédéraliste, hein, comme Pierre Bretonnier, que j'entends souvent le vendredi chez vous. Pour moi, un État, ça peut faire partie d'une nation. L'État fédéré, l'État intégré, c'est pas forcément l'État indépendant ou l'État associé. Donc le mot État ne me gêne pas à partir du moment où on dit que cet État fait partie de l'ensemble national, comme on l'a précisé dans l'accord. Et ensuite, la double nationalité, est-ce que c'est une nationalité? Ça, les constitutionnalistes devront répondre à ça, parce qu'en fait, c'est une nationalité qui dépend d'une autre nationalité. C'est-à-dire que pour être calédonien, il faut être forcément français. Or, quand on est chinois, il ne faut pas être forcément japonais. Quand on est allemand, il ne faut pas être forcément anglais. Quand on est américain, il ne faut pas être forcément canadien. Donc, en fait, si on n'est pas français, on ne peut pas être calédonien. Donc, c'est plutôt une super citoyenneté, et finalement une super citoyenneté, comme je le disais, qui est plus ouverte que celle qu'on avait auparavant, puisque le corps électoral est dégelé.
Alors c'est quand même un État qui pourrait être reconnu par la communauté internationale. Et puis la compétence en matière de relations internationales est transférée. Est-ce que là, il n'y a pas un risque, quand on connaît les volontés, les velléités d'ingérence de la part d'un certain nombre de puissances, est-ce que sur le plan international, on ne doit pas être un peu plus prudent?
Alors nous, sur le plan international, la reconnaissance qu'on sollicite, nous, les non-indépendantistes, c'est que la communauté internationale reconnaisse que notre État de Nouvelle-Calédonie fait partie de l'ensemble national. C'est ça, notre revendication. C'est-à-dire que la communauté internationale reconnaisse que la Nouvelle-Calédonie fait bien partie de la République française. C'est notre reconnaissance qu'on demande. Ensuite, sur le transfert de la relation internationale, en fait, elle est plutôt serrée aux compétences calédoniennes. C'est-à-dire que on va avoir notre possibilité de faire des accords au niveau international dans le cadre de nos propres compétences. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer des accords commerciaux, des accords sur l'éducation. Mais on ne pourra pas passer des accords avec les autres États qui concernent les compétences de la France. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas passer des accords internationaux sur l'armée, sur la sécurité, sur la monnaie qui reste du domaine de l'État français.
Reconnaissance internationale, mais pas de siège à l'ONU, c'est pas envisagé.
Ah non, mais de toute façon, les indépendantistes nous l'ont demandé ça. Ils nous ont dit, nous on veut un siège à l'ONU. Donc nous on a dit, s'il y a un siège à l'ONU, il y a retrait de la liste des pays à décoloniser. Et donc les indépendantistes ont dit, bon ben on le met pas du coup.
Alors beaucoup de choses hein, dans ce projet d'accord ou cet accord, il y a la loi fondamentale qui là aussi fait tiquer un certain nombre de gens. Elle sera adoptée par le Congrès qui va être élu en mai-juin 2026. En fait, pour faire simple, une loi fondamentale, c'est celle qui, qui va organiser le fonctionnement de la Calédonie ?
Oui, alors pour prendre un exemple très simple, très concret, vous savez, à l'époque, quand Calédonie Ensemble démissionnait tous les 15 jours du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et faisait tomber le gouvernement et créait une instabilité, on avait dû changer la loi organique à l'Assemblée et au Sénat pour faire en sorte que le gouvernement puisse être stable au moins 18 mois. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus faire tomber le gouvernement plus d'une fois tous les 18 mois. Mais ça avait nécessité qu'on sollicite le Sénat et l'Assemblée nationale qui étaient un peu perdus dans notre organisation. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire ici, dans le cadre de notre loi fondamentale, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Voilà.
Et c'est le Congrès qui sera élu dans la prochaine mandature qui sera chargé de faire ça.
Tout à fait, avec le rééquilibrage des sièges au Congrès.
Alors, entre-temps, chronologiquement, cet accord ou ce projet d'accord, il va être validé officiellement. Est-ce qu'il y avait un processus un peu comme celui de l'accord de Nouméa qui avait été signé en grande pompe au commissariat? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est envisagé actuellement?
Oui, alors on parle d'avoir le président de la République qui viendrait dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour faire une signature très officielle, voilà, avec strass et paillettes. Et puis certainement en attendant aussi quelques vérifications constitutionnelles. Après, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'attention, ce qu'on a signé à Bougival, c'est pour nous la signature officielle. Moi, je ne veux pas qu'on fasse croire qu'à Bougival, on a posé une signature, qu'il soit une signature juste pour la photo à ce moment-là.
Alors, sur un plan législatif, il y aura aussi beaucoup de travail. Il faut une loi organique pour modifier la date des provinciales. On peut penser que ce sera relativement simple. Mais il faut modifier la Constitution. Il y aura ensuite la validation par les Calédoniens et enfin l'adoption de la loi organique spéciale. Comme député, ça va vous faire beaucoup de travail, tout ça?
Oui, c'est vrai. c'est mon boulot, donc on va le faire. Puis on va le faire aussi en étroite collaboration avec tous les leaders loyalistes. Moi, je serai le porte-parole des loyalistes, là encore, à l'Assemblée nationale, mais je ne serai pas tout seul. L'idée, c'est vraiment de faire attention à chaque virgule, à chaque mot, de ne pas se retrouver comme l'accord Nouméa, où en fait, on avait signé un corps électoral glissant et on se retrouve à cause d'une virgule avec un corps électoral gelé. L'idée pour moi, c'est de vraiment vérifier tous les petits dangers. Le diable se cache dans le détail et donc on va aller chercher le diable un peu partout.
Et quelle va être l'attitude de la représentation nationale? On sait que déjà, il y a quelques réticences chez LFI et au Rassemblement national. Est-ce qu'il va y avoir un soutien, une majorité? Le congrès de Versailles, c'est quand même 3/5.
Non, mais moi, ce que je veux dire à la classe politique nationale, c'est qu'à un moment donné, faut qu'ils arrêtent leur simagrée. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir chantonné pendant 3-4 ans. Il faut que vous trouviez un accord, il faut dialoguer, il faut vous entendre entre vous, il ne faut pas passer en force, il ne faut pas aller au congrès de Versailles dégeler le corps électoral. Et maintenant, nous expliquer quand on a trouvé un accord, ah ben dis donc, c'est pas bien. S'ils avaient des lignes rouges, les camarades de l'Assemblée nationale et du Sénat, ils n'avaient qu'à les poser avant. Ils n'avaient pas qu'à chanter dans un champ de fleurs que tout est beau, tout est merveilleux. Non, mais parce que ça m'énerve. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais il y a un moment donné, Marine Le Pen, elle parlait de faire un nouveau référendum parce qu'il ne fallait pas atténuer la revendication indépendantiste, il fallait la comprendre. On nous a proposé un État associé dans 15 ans. Maintenant, Manuel Valls nous a proposé de transférer les compétences régaliennes la dernière fois. La gauche, elle ne parle que de décolonisation et de souveraineté du peuple premier. Il y a un moment donné, vous savez quoi? Si ça les dérange que dans la Constitution, il y ait le mot État ou il y ait le mot double nationalité, il fallait qu'ils assument ces positions-là avant. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais leur rappeler là-bas.
Vous allez devoir les convaincre aussi.
Oui, certainement. Après, il va falloir qu'ils fassent attention parce que une fois qu'on s'est mis d'accord entre indépendantistes et non-indépendantistes, j'espère qu'ils ne vont pas instrumentaliser le débat à nos dépens. Parce que ce que je veux rappeler aux Calédoniens qui nous écoutent, c'est que c'est un accord qui est bon pour la Nouvelle-Calédonie et bon pour l'ensemble des Calédoniens. Si on se retrouve dans une guerre tranchée entre RN, la Macronie et la France insoumise, et que chacun va exploiter finalement les concessions des uns et des autres, c'est nous que ça va déstabiliser. Parce que vous savez, après, eux, ils sont tranquilles. Hein. Ils vont repartir dans leur circonscription, se faire réélire dans la dissolution, ils vont être sur les municipales, ils vont être sur les présidentielles de 2027. Et nous, ici, on va se retrouver dans un charnier. Donc, ce n'est pas l'objectif. Donc, moi, je vais aller expliquer l'accord à mes camarades de l'Assemblée nationale, mais je vais aussi être un peu direct, si vous voyez ce que je veux dire.
Et localement, ça se passe comment? Vous êtes rentré il n'y a pas très longtemps, mais les premiers retours, vous avez l'impression que les Calédoniens approuvent, adhèrent à ce qui a été prévu?
Bah écoutez, je trouve qu'il y a beaucoup de questions pour comprendre. Il y a une volonté de comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est normal, qui est sain et qui, moi, me rassure. Parce que si on était revenu avec un statut définitif, plus de référendum dans la France, en créant un État, une double nationalité, et que les gens se disaient « bon, bah c'est bon », je me serais posé deux, trois questions. Donc moi, je trouve ça hyper sain que les gens demandent des explications. En gros, c'est la majorité du retour qu'on a, c'est ça, c'est expliquez-nous ce qui se passe. Ensuite, il y a des gens qui sont très satisfaits parce qu'ils voulaient absolument un accord et des personnes qui sont plutôt très énervées parce qu'ils considèrent que les concessions ont été trop grandes de notre côté. On le savait, hein, on savait qu'on n'allait pas faire que des heureux en signant cet accord politique-là, mais on a pris nos responsabilités. Ce qu'on voulait vraiment éviter, c'était ça, c'est-à-dire que on s'est dit, mais est-ce qu'on va encore signer quelque chose qui rejette le problème dans 15 ou dans 20 ans ? Je crois que ça aurait cassé le moral finalement de toute la Calédonie. Alors moi, je préfère que les gens prennent du temps à comprendre ce qu'on a essayé de faire et le fait qu'on soit dans un statut pérenne que d'avoir le reproche de dire vous avez encore repoussé la poussière sous le tapis.
Un mot, on aura l'occasion d'en reparler forcément, mais un petit chapitre dans cet accord sur l'économie, sur le nickel notamment. Vous n'avez pas eu le temps d'aller au fond des choses, mais est-ce qu'il va y avoir une éclaircie sur le plan économique ? On parle notamment d'une aide de l'État, d'un étalement de la dette. Est-ce que tout ça est quand même envisagé ? Est-ce que vous avez pu en parler ?
Alors, c'est la partie qui est un petit peu décevante. Ah, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a quand même des principes qui seront du coup dans la Constitution, parce que c'est dans l'accord, qui sont importants, notamment la transformation des prêts en subventions pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le soutien à l'usine du Nord pour la province Nord, les grands travaux, on a parlé du lycée agricole de la Foix, du centre pénitentiaire. Mais ce qu'on regrette un peu, c'est que ça manque de détails, ça manque de chiffres, ça manque de financement. Et donc l'idée, si on a une deuxième séquence avec le président de la République ici en Nouvelle-Calédonie, c'est cette fois de monter au créneau très fortement sur les questions économiques et financières, parce que une stabilité politique, c'est essentiel, mais si derrière, on n'a pas l'essence dans le moteur pour faire tourner la nouvelle belle machine, ça ne servira à rien. Donc il faut vraiment qu'on se focalise désormais là-dessus, que l'institutionnel est passé.
Et la mission interministérielle de Claire Durieux peut permettre aussi de faire avancer ces sujets au jour le jour ou...
Oui, alors moi je connais bien Claire Durieux, qui est une personnalité importante du ministère des Finances, qui est plutôt dans la bienveillance et dans l'écoute, qui n'est pas là à donner des leçons sur on ne paye pas assez d'impôts, on ne travaille pas assez, on est trop gâté, etc., qui cherche vraiment à trouver des solutions. Donc je pense qu'elle va pouvoir nous aider. Elle est tombée amoureuse de la Nouvelle-Calédonie, donc tant mieux pour nous. Et donc j'espère qu'on pourra avec elle affiner ces mesures de relance économique, parce que vous savez, la Calédonie, elle a un potentiel magnifique, elle a un potentiel énorme. On doit pouvoir, je pense, retrouver le niveau de développement de la fin des années 90, début des années 2000, où tout le monde était satisfait de comment elle gagnait sa vie. Donc moi je crois beaucoup en la relance économique maintenant qu'on a stabilisé les choses.
Beaucoup de travail en perspective, donc Nicolas Merzeuf, monsieur le député, merci d'accepter notre invitation.
Merci beaucoup.